Bonjour à toutes et à tous, joyeux équilibristes des sentiments et autres cinéphiles, bonjour et bienvenue, vous êtes à l'écoute du Journal des Rencontres, le cinquième épisode de cette folle semaine des Rencontres des Cinémas d'Europe, où nous avons posé nos valises et nos micros au studio Claude Lost du Centre Le Bourgneau. Vous pouvez nous rejoindre pour de vrai tous les jours à midi et 17h en salle 103. Alors cet après-midi, on a le grand plaisir d'accueillir Baya Kasmi, scénariste et réalisatrice, pour une double actualité ici aux Rencontres, puisqu'elle va présenter à la fois son nouveau film Mikado, donc en avant-première ce soir à 18h30, avec une rencontre à 20h. Et puis aussi, demain, elle sera là pour un rendez-vous autour du scénario au cinéma, demain à 11h également au Navire. Bonjour Baya.
Bonjour, j'aime beaucoup le générique.
C'est une petite trouvaille de Sylvain qu'on salue, qui est derrière, qui est à la technique au studio de Fréquence 7. Salut Sylvain. Avec nous également donc Plex, qui est là parmi nous à la technique ici.
Bonsoir.
Oh, et mon Dieu, et sa voix suave et langoureuse. Et Léna, salut Léna, qui est avec moi pour vous interviewer.
Bonsoir Baya, salut Sophie.
Salut. Alors ces deux rendez-vous, donc ce soir et demain, ça nous a donné envie évidemment d'orienter un petit peu la discussion autour à la fois de ce film, Mikado, et puis du travail de scénariste. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, Léna, est-ce que tu peux nous dire ce que raconte ce film, Mikado ?
Alors Mikado, c'est l'histoire d'un couple, Mikado et Laetitia, qui vit sur les routes avec ses deux enfants. Donc ils vivent en van. Et un jour, une panne les oblige à quitter leur vie sur les routes. Ils sont accueillis chez Vincent, qui vit tout seul avec sa fille dans une grande maison. Vincent est instituteur.
Prof, non ?
Professeur. Ouais, prof de français, je crois.
Ouais, prof de français.
Et donc, cette panne va faire vaciller l'équilibre de toute la famille qui se voit sédentaire pour 2 semaines.
Oui.
C'est un beau résumé. Ouais. C'est en tout cas la rencontre de deux familles qui n'ont pas du tout le même mode de vie et qui vont effectivement s'influencer, se changer, se déstabiliser les uns les autres. C'est aussi l'histoire de l'enfant, enfin... Une histoire autour de l'enfance.
Mm-mm.
Voilà.
On va y revenir parce que c'est vrai que ça, c'est une des thématiques qui... c'est comme un mikado. De toute façon, c'est comme un mikado géant. Vous reprenez certaines baguettes qui vous sont familières et qui nous sont familières aussi, c'est-à-dire avec des comédiens compagnons qu'on retrouve. Il y a Ramzi Beda, il y a Félix Moati, il y a Vima Laponce.
Oui.
Qui sont là, il y a des thématiques, vous avez commencé à les aborder, l'enfance notamment, la marginalité. Et puis, il y a aussi, c'est un peu le jeu du Mikado, il y a toujours un peu d'inattendu, un peu de risque. Une nouveauté, peut-être, c'est que là, on n'est pas dans la comédie.
Oui, c'est pas le moteur narratif, quoi. C'est-à-dire que, justement, ça c'est très... Peut-être c'est au scénario que ça se joue, mais effectivement, les scènes ne sont pas faites pour être drôles. Et pour moi, c'était une expérience géniale parce que ça m'a libérée aussi de quelque chose et ça m'a permis de mettre en scène des situations dans une autre énergie. Parce que c'est vrai que la comédie, c'est assez tyrannique. Même si on raconte toujours une histoire qui peut tout à fait être dramatique, même si... des émotions doivent passer quand on dirige une scène de comédie. Il y a quand même un moteur de comédie, quelque chose qui doit être drôle, qui doit être tendu autour de ça. Et donc, du coup, la priorité, elle va à ça. C'est-à-dire qu'on met en scène pour que ce soit drôle. Voilà. On ne peut pas faire une comédie où les gens ne rient pas. Donc, tout est amené vers ça, y compris le montage, y compris... Donc là, j'avais une sorte de liberté. J'ai pris des chemins de traverse qui vont très bien, je trouve, au film.
Alors justement, l'envie de départ, c'était quoi ? Est-ce que c'est une histoire ? Est-ce que c'est un thème ? Est-ce que c'est des comédiens ? Est-ce que c'est justement pas de comédie ? C'est quoi ?
L'envie de départ, je crois que j'avais envie de faire un film depuis longtemps sur l'enfance.
Ouais.
Parce que sur l'enfance, c'est peut-être et ce sentiment d'étrangeté qui tourne surtout autour du personnage de Nuage, mais qui se sent un petit peu à côté du monde, qui n'a pas la même expérience que les autres, qui a l'impression qu'elle n'a pas les codes, elle ne comprend pas vraiment comment les autres s'organisent, elle est pleine de désir de comprendre ce monde. Bon, ça, c'est un peu la position de tous les enfants. Moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu peut-être un peu plus que les autres parce que je suis allée tard à l'école. Qu'effectivement je ne comprenais pas grand chose, que j'ai mis du temps à aborder mes semblables. Voilà. Et puis voilà, et puis après beaucoup de récits, je crois que j'ai reçu d'histoires de gens que la vie a fait que j'ai rencontré, qui m'ont raconté un peu aussi des enfances comme ça, comme celle des parents de Nuage qui sont joués par Félix Moati et Vima Laponce, qui ont eu des histoires, des enfances un peu cabossées, quoi, à l'aide sociale à l'enfance, avec, donc en n'étant pas regardés et validés par leurs parents, en manquant de, je pense, de ce regard et de cette protection dès l'enfance. Et j'avais envie de raconter aussi comment on fait pour vivre sans ça, comment on se reconstruit. Mais c'est vrai que ça, c'est des thèmes qui traversent tous mes films. Comment on s'invente, comment on se construit, la famille, l'enfance. C'était au final assez proche, mais la façon dont j'ai abordé le récit... on s'en rend compte toujours à la fin, en fait, qu'on raconte toujours la même histoire.
Je vais peut-être apporter une précision pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas encore vu le film, n'ont certainement pas encore vu, s'ils nous écoutent en direct. Donc, Mikado, il a grandi en foyer, en famille d'accueil, où il a été maltraité de diverses façons. Et une de ses angoisses, c'est que ses propres enfants se retrouvent confiés à la DAS, enfin qui ne s'appelle plus la DAS, je crois.
Mais... Il s'appelle l'ASE maintenant.
Voilà, l'aide sociale à l'enfance. Parce que les enfants de Mikado et Laetitia ne sont pas déclarés administrativement.
C'est ça. Voilà. Il y a une conséquence effectivement de cette peur qu'il a de. Enfin voilà. Et en fait, il est amené à. Du coup, à faire vivre un peu la même sans le vouloir, quoi, en voulant empêcher sa fille et son fils de vivre les mêmes douleurs que lui, parce que c'est quand même lui qui est assez moteur et assez tendu avec ça, peut-être plus que Laetitia qui pourrait bouger pour ses enfants. Bah lui, il est amené à condamner ses enfants à vivre la même chose, c'est-à-dire à être un peu à pas exister, à pas être gardé, alors en l'occurrence pas par leurs parents, mais par le reste du monde.
Et oui, ça, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'en voulant éviter à tout prix à ses enfants de vivre la même chose que lui, finalement, il se retrouve à réagir de façon violente et à leur imposer un mode de vie qu'ils n'ont pas choisi. Et c'est là qu'on retrouve le parallèle entre Mikado et sa fille, donc sa fille Nuage, cette adolescente dont vous parliez à l'instant, qui se prend à rêver d'une autre vie que celle que ses parents ont choisie pour lui. Pour elle, pardon. Et donc, j'avais une question au niveau du choix du titre. Parce qu'on m'a soufflé à l'oreille qu'à l'origine, vous aviez choisi d'appeler ce film Nuage, c'est vrai ?
Non, en fait, ce film a migré souvent. C'est un film à multiples points de vue, ce qui n'est pas facile à écrire.
Mmh. Okay.
Parce que c'est toujours plus facile de faire un film à un seul point de vue. On a une ligne narrative claire. Moi, comme c'était un film qui parle de aussi comment on trimballe son enfance en tant que parent et comment et comment ça se répercute sur les enfants, et ça peut être une chaîne malheureuse. Voilà, c'est une chaîne qui peut être infinie. Donc, j'avais besoin de ces deux points de vue et de créer un regard justement entre Mikado et Nuage et entre d'ailleurs Vincent et sa fille, entre Laetitia et ses enfants. Et donc, oui, j'ai souvent hésité. C'est-à-dire que le film s'est appelé Mikado, puis Nuage, puis Mikado, puis Nuage. Et puis finalement, finalement, c'était Mikado. Parce que dans Mikado, il y a l'origine de l'histoire. C'est aussi le personnage qui change de regard. Enfin, qui se transforme au cours du film, qui change de regard. Mais c'est vrai que le film migre et à un moment, on passe du point de vue de sa fille.
Et si vous aviez conservé le titre Nuage, vous auriez transformé l'histoire ?
Oui, je pense qu'en tout cas, si vraiment, enfin voilà, au scénario s'est imposé le la ligne narrative de Mikado. Et parce que c'est lui qui fonce dans un mur, en fait, c'est lui qui ne qui crée le moteur de l'histoire aussi. Mais effectivement, si au montage j'avais décidé d'en faire, parce que au montage on peut, c'est une deuxième réécriture, on peut aussi complètement réinventer un film. Si j'avais décidé de mettre Nuage au premier plan, j'aurais pu changer le titre.
Mais c'est aussi lui, en fait, qui est à la jonction entre ces trois générations, parce qu'il est à la fois fils d'eux et père d'eux.
Absolument, absolument. Ouais. Et c'est, et puis c'est, pour moi, c'était important aussi. C'est aussi un personnage qui s'est réinventé, enfin qui s'est lui-même donné un nom qui n'est pas le sien, même si c'est proche. C'est pas un hasard, quoi. C'est lui qui essaye de se définir, puis il est un peu paumé, mais... Et puis, c'est aussi l'image du Mikado qui est quelque chose qui rattache vraiment à l'enfance et à la difficulté de trouver son équilibre et à la difficulté de cette famille aussi de potentiellement de devoir se séparer. Alors que, voilà, c'est quand même un jeu où on est censé enlever petit à petit les baguettes les unes après les autres. Et c'est exactement ce que la déstabilisation que vit Mikado.
J'aimerais qu'on revienne justement sur le fait que vous ayez choisi non pas la comédie. D'ailleurs, est-ce que vous avez imaginé un moment raconter cette histoire ?
Absolument, ouais. J'ai complètement imaginé
au départ
la raconter. Ouais, parce que j'aime bien. En fait, c'est une histoire un peu triste, même si finalement je crois qu'elle est très lumineuse aussi. Mais moi, ce qui fait le sel des comédies pour moi. Et des comédies, je crois que j'ai écrites, c'est justement que le récit, c'est une histoire de problèmes, de galères, de gens qui vont pas bien, des histoires tristes, en gros, si on veut faire. Et que le plaisir, c'est de faire rire avec ça, c'est-à-dire de trouver cet endroit où on rit avec les personnages et où on arrive à décaler un peu le regard pour se dire que notre vie, quand elle est. Quand on est au fond du trou, en fait, c'est drôle. Et c'est vrai que quand on est vraiment au fond du trou, on a parfois du mal à le voir, mais il y a toujours une façon de le tourner de façon drôle, et c'est ce que j'aime dans les comédies. Et c'est de toute manière le propre des grandes comédies qui nous inspirent, c'est de raconter quelque chose de beaucoup plus grave. Et là, je crois que peut-être j'ai pas trouvé la façon, peut-être parce que ce n'était pas mes histoires que je suis témoin de, enfin je suis plus passeuse d'histoires là-dedans. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a raconté cette histoire de procès, c'est-à-dire que dans le film Mikado doit répondre de harcèlement à l'égard d'une des familles d'accueil dans laquelle il a vécu. Cette famille l'a maltraité dans son enfance alors qu'il était sans défense et qu'il leur était confié. C'est malheureusement l'histoire, voilà, parce que l'aide sociale à l'enfance, il y a des très belles choses et il y a des choses terribles. C'est malheureusement une histoire qui est arrivée à plus d'un enfant placé. Et donc, dans son début d'âge adulte, en tout cas, le jeune homme qui m'a raconté ça, il avait besoin de se défouler en fait sur cette famille et d'essayer de leur faire avouer leur mauvais traitement et de les faire, enfin de se rendre justice en quelque sorte. Et finalement, ils l'ont traîné devant la justice et il a dû payer une amende et il a eu une interdiction de les approcher, de leur téléphoner, etc. Donc cette espèce de deuxième baffe d'incapacité à se faire justice, d'incapacité à être entendu, d'incapacité aussi à avoir une place dans la société. Ça m'a parlé, ça m'a marqué. Et c'est vrai que j'aurais adoré, parce que j'adore les comédies anglaises, voilà, Ken Loach, Stephen Frears, quand ils sont dans la comédie. Mais j'ai jamais trouvé, peut-être que je me suis pas autorisée, j'ai jamais trouvé cet endroit où je pouvais être sûre d'être assez respectueuse de ses sentiments. Je sais pas, il y avait quelque chose, je pense, qui était... Je voulais surtout pas que ça soit misérabiliste. Je crois que ce sont des personnages qui sont pleins de vitalité, qui se battent vachement et qu'on ne plaint pas et qui ont aussi la liberté de se réinventer. Mais la comédie, je n'y suis pas arrivée. Donc oui, le scénario a migré. Et moi, ça m'a permis de faire une autre expérience de mise en scène qui était passionnante.
Et justement, ça vous a amené où? Parce que je me disais, en préparant l'émission, bah oui, une comédie, comme vous disiez, c'est des personnages qui sont dans les contradictions, et c'est ce qui provoque à la fois des moments de rire, et c'est ce qui va provoquer et le rythme, et la...
Ouais.
Et qui fait avancer le récit. Et quand on n'a pas ça...
Oui, c'est une vraie question, parce que moi, j'avais une vraie terreur de ça. J'avais vraiment l'impression de refaire un premier film.
Et ouais.
Enfin, voilà, très clairement, cette énergie du rire, il faut remplacer le rire par de l'attention. Il y a toujours de la tension dans le rire aussi, hein, parce qu'on ne fait pas rire si le personnage n'est pas tendu, ne prend pas un risque, n'est pas en train de mentir, ne risque pas d'être découvert. Enfin, s'il ne vit pas des situations tendues et qu'il mette en difficulté, le rire ne naît pas. Donc, ces situations, on les met en place aussi quand on écrit de la comédie. Mais il fallait que cette tension, elle soit suffisamment forte pour se suffire elle-même. Et je crois que très naturellement, aussi par peur de... parce que je crois que j'aime bien les films généreux et émotionnels et non pas intellectuels. Et du coup, je pense que naturellement, j'ai remplacé le rire par les larmes. En tout cas, par l'envie que ça génère, oui. Petit à petit, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus un mélo. Et un mélo, c'est aussi paroxystique que la comédie. C'est aussi... Ça va chercher dans les tripes, quoi, quand même, aussi.
C'est-à-dire pas forcément laisser de la place pour réfléchir au moment où on regarde le film.
Exactement.
Mais que ça plante une petite graine et qu'à la fin du film, on se dit « Ah mais oui, tiens !»
Exactement. Et ça, c'était... Et pour moi, c'est très important. J'ai beaucoup de mal avec les... Et pourtant, il y en a qui le font extrêmement bien. Moi, j'ai pas envie que le spectateur se dise « Ah, donc ça veut dire ça !» Enfin, et du coup, c'est toujours un vrai travail de est-ce que le plan là dure trop longtemps, est-ce qu'il est trop voilà, j'ai envie qu'on soit pris dans le film et qu'on réfléchisse après et que nous on se laisse emporter par des émotions qui peuvent être contradictoires parce que ça veut dire aussi que voilà, un personnage peut tout d'un coup nous être antipathique puis finalement s'avérer sympathique, on prend tous ces risques là, ça fait partie du travail. Mais oui, j'aime pas trop qu'on réfléchisse pendant le film. Et quand on réfléchit pas pendant le film, bah, ça libère d'autres émotions qui sont pas intellectuelles et c'est intéressant.
Et je voulais souligner une phrase que tu m'as dite tout à l'heure, Sophie. On discutait du film et tu m'as fait remarquer qu'à un moment, le personnage de Laetitia dit à Mikado... Mais tu ris à chaque fois qu'on parle de choses tristes. Donc il y a presque une mise en abîme dans votre film de cette réflexion de où est la place du comique dans les situations graves.
Ouais, c'est beau de le dire comme ça. J'y ai pas pensé comme ça, moi. Ça me plaît, je prends. Je pique.
Pardon.
Oui, pardon, non, je voulais juste dire que pour moi, c'est quelque chose... Effectivement, je pense que j'ai travaillé, mais sans en être consciente non plus. Enfin... Moi, j'aime bien... Je suis très... sur un plateau de cinéma, je suis très... j'ai l'impression que tout m'énerve, hein, que tout est ouvert à regarder ce qui se passe. Et je ne veux pas avoir d'idées préconçues de ce que je vais faire. Et ça arrive parce que je regarde le comédien et que je ressens quelque chose en fonction de l'image et du comédien. Et pour moi, c'est vachement important de garder ça intact et de pas se faire trop de plans sur la comète. Et c'est vrai que c'est un truc, je me suis rendu compte après coup que j'ai travaillé un peu dans tous mes films, dans le sens où, et qui est sûrement en lien avec ce désir de faire de la comédie, qui est sûrement en lien avec ma propre pudeur par rapport aux choses qui sont tristes et l'envie de transmettre de la joie aux gens. Enfin, mon premier cours, c'était l'histoire d'une fille qui s'était fait abuser sexuellement et qui essayait de s'en sortir, et bon, elle avait un gros sécateur, elle voulait couper les couilles du mec qui lui avait fait ça, et c'était une comédie. Et je pense que cette énergie-là, elle m'a poussée à chercher aussi chez les comédiens quelque chose qui est de l'ordre de ça, quand ils racontent quelque chose de trop dur, comme moi, en fait, je supporte pas cette tension, et j'ai l'impression d'envoyer de la violence. Je pense que dans la vie, c'est pareil, si si vous parlez de vous et que tout d'un coup vous avez l'impression que vous faites mal à l'autre, ben on a envie de sourire, de rire, de dédramatiser. Et c'est vrai que là, c'est devenu interne au film, c'est-à-dire que ce personnage, il est tellement pudique que, même pour, par rapport à lui-même, je crois qu'il ne se rend pas compte que c'est... Quand il est triste, il rigole, quoi. C'est une défense.
Et juste beaucoup, du coup, pour rebondir, Sophie, sur ta question de la comédie et du mélo, enfin du drame, est-ce qu'on pourrait dire que, quelque part, ça marque aussi une évolution dans votre vie de scénariste et de réalisatrice, puisque vous vous exposez à une certaine vulnérabilité, puisque pour la première fois, vous vous autorisez de parler de choses graves sans rire.
Merci, c'était donc ma question. Comme pardon, la précédente
Sophie,
était donc ma question, mais c'est parfait, ça veut dire que nous sommes en phase.
J'adore, ben oui, 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 je pense que oui. Et je pense que je me suis sentie, oui, plus, enfin... oui, exposée. Mais en même temps, c'est ça qui est beau, quoi. C'est-à-dire qu'on prend toujours un, enfin, on prend un risque qui n'a aucun intérêt, qui est minime, qui n'est pas de l'ordre de la vie et de la mort. Mais par contre, on engage quelque chose d'intime. Et oui, c'était, oui, ça me faisait peur, cette espèce de le fait d'être émotionnellement intense et de trouver la bonne limite, parce que voilà, la limite qui n'est ni violente, ni pathos, ni enfin voilà, c'était une recherche. Donc je pense que c'est ça qui m'a amenée vers ces idées qui sont un peu différentes effectivement de d'habitude, mais qui amènent le rire quand même au centre de l'histoire.
Oui, oui, parce que c'est il y a de la vie. En fait, il y a de la vie. Il y a à plusieurs moments. D'ailleurs, il y a souvent, enfin pas forcément souvent, mais autour de la musique que la vie prend. Il y a aussi une scène dans le collège où là, c'est effectivement on est dans la vie. Et c'est assez intéressant. Je voulais juste pour continuer sur l'idée d'évolution. Est-ce que en voyant le film, est-ce que il vous est apparu des choses justement que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas conscience ? C'est-à-dire, est-ce que les personnages ou est-ce que l'histoire vous a appris quelque chose ?
Je crois que oui. Vraiment, quand j'ai fini le film, je me suis rendu compte qu'il racontait la même histoire que mon précédent film, qui est Youssef Salama du succès, qui n'a pas ni la même forme ni le même ton. Ni la même histoire, etc. Ça, je trouve ça toujours surprenant. Mais oui, ça raconte la même histoire. Comment on prend l'indépendance, enfin, comment on se construit, comment on s'invente.
C'est ça.
Comment on trouve sa liberté, quoi. Et comment on arrive aussi à trahir des parents qu'on aime. Donc, c'est exactement la même histoire. Et ça, c'est bizarre. Oui, mais ça, je m'en suis pas du tout rendu compte en l'écrivant. Parce que voilà, on est pris aussi par des thèmes, par des choses. Et peut-être c'est ça qui me donne confiance, parce que je me dis que bah, du coup, c'est un film personnel. J'avais très peur de ça, puisque c'est pas une expérience que j'ai vécue. Je sais les endroits qui sont multiples où j'y mets des choses personnelles. Mais c'est pas exactement cette histoire que j'ai vécue. Donc, comme j'avais beaucoup travaillé autour de l'autobiographie et de sa trahison, j'avais un peu peur de partir dans une fiction. Et là, l'idée, c'était quand même d'être romanesque, d'assumer aussi des choses qui ne sont pas forcément réalistes. Il y a peu de gens qui déclarent pas leurs enfants. Ça arrive. Souvent, ce sont des familles qui vont mal et on retrouve les enfants dans très maltraités, dans un sale état. Ou alors ce sont des histoires qui viennent de Chine avec la politique de l'enfant unique. Et là, on a vraiment des gens qui n'existent pas, qui n'ont pas d'état civil. Mais je pense que c'était une idée très romanesque, très, voilà, pas du tout réaliste, mais qui m'a énormément plu dès qu'elle est sortie, quand on a commencé à écrire. Pour moi, c'était l'histoire, comment on fait pour exister. Et on s'est lancé là-dedans. Et donc on est vraiment plus dans un hommage à des films, moi, que j'adorais quand j'étais jeune. des films américains où je peux citer Un monde parfait, par exemple, ou À bout de course de Sidney Lumet. J'ai l'impression qu'il y a, il y a une histoire très simple comme ça, mais aussi un désir d'aventure, un désir de grands espaces, et de s'autoriser la licence poétique et narrative que s'autorisent les Américains. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du cinéma réaliste. Et pour moi, c'était important, ça. Mmh.
J'ai plein de questions, ça se confond dans ma tête, je ne sais pas laquelle choisir, vas-y.
Ok, on a beaucoup parlé de cette question de l'enfance et de l'émancipation, etc. Et moi, je vous avoue qu'au début, j'avais une toute autre grille de lecture. À la lecture du synopsis, moi, je m'attendais à un film sur le nomadisme, la vie hors norme, un peu comme Capitaine Fantastique.
Ouais.
Et donc, pendant le début du film, j'étais marquée par cette grille de lecture et du coup, je me suis demandé si c'était une volonté de votre part de mettre en perspective ces deux modes de vie et qu'est-ce que vous aviez envie de raconter sur la vie hors norme.
De toute façon, la norme et la vie hors norme, c'est ça, l'un raconte l'autre toujours. C'est-à-dire que quand on va raconter l'histoire de gens qui vivent pas comme les autres, qui vivent à côté du monde, on raconte aussi ce que le monde attend de nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi cette sensation d'être contrôlé même par la vie, par nos téléphones, on a tout un tas de la vie est sur des rails pour tout le monde. On arrive, ça commence par un état civil parce que c'est à la fois très important, mais c'est aussi le début d'une vie qui va à la maternelle, au collège, au lycée, au travail, et puis au cimetière avec l'acte de décès. Donc ça a l'air très déprimant ce que je dis, mais je pense qu'il y a quand même je pense que j'avais vraiment besoin qu'on comprenne le désir de liberté de ces personnages. Eux, ils ont peur de la société, ils n'ont pas été bien accueillis dans leur vie, donc ils se méfient. Mais en même temps, la vie qu'ils essayent de construire, l'espèce d'utopie qu'ils cherchent à mener, c'est une utopie, je pense, dont on peut tous avoir rêvé. Mmh. Il y a tous un moment où on a envie de prendre la route et de vivre plus avec nos enfants et d'être plus libre dans notre mode de vie. Et pour moi, c'était très important de faire un film qui toujours sur la rencontre et un questionnement sur c'est quoi. En fait, il n'y a pas de bon mode de vie. C'est juste que les enfants doivent pouvoir choisir. Mmh. C'est le principe. Il n'y a pas de. Et c'était très important pour moi qu'on comprenne à la fois cette famille qui vit sur les routes et qui vit une toute autre vie et qu'on comprenne aussi Vincent et sa fille.
Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est justement désirable et notamment désirable pour Nuages, c'est ce qu'elle n'a pas. Évidemment.
N'a pas, exactement.
C'est toujours ce qu'elle n'a pas.
On rêve toujours de ce qu'on n'a pas et on rêve toujours de l'autre, de celui qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que la rencontre, c'est le sel de la vie. On vit tous pour ça.
Et c'est d'ailleurs ce qui fait la rencontre avec les autres et la rencontre avec le réel. C'est ce qui les émancipe tous, que ce soit Mikado, c'est de sortir de sa bulle, de son utopie qu'il s'est créée, pour se confronter à la réalité, c'est ça qui va le libérer. Nuage, c'est pareil, elle est dans des certitudes. Il y a quand même des choses très drôles où elle. Oui, c'est ça. Oui, elle consulte. Elle a des bouquins. Mais oui, elle lit les bouquins.
Elle étudie sur des vieux livres des années 90. Donc elle a raté la chute du mur.
Ouais. C'est ça. Elle est avant la chute du mur. Ouais. Et donc, mais elle est persuadée d'avoir raison. Et elle est persuadée d'avoir raison parce qu'elle n'est pas confrontée par d'autres réalités que la sienne.
Oui.
Et j'ai vraiment l'impression, parce que je voulais vous interviewer, mais là, le temps file, mais sur... je suis très intéressée de savoir ce qu'une raconteuse d'histoire, une scénariste, comment vous voyez le fait que dans notre société, la fiction est partout et où la réalité se dilue et se dissipe.
Oui. Non, mais c'est sûr qu'on vit dans un monde où, d'abord, où il y a de toute manière, je crois que il y a de multiples réalités en fonction du monde dans lequel on est. Je veux dire, ne serait-ce que si on habite aujourd'hui aux États-Unis ou enfin dans certains États des États-Unis ou en France ou en Iran ou voilà, c'est des pays où on se raconte une fiction totalement différente. Et en fonction ensuite de si on est musulman, catholique, témoin de Jéhovah ou je ne sais quoi, on se raconte aussi des histoires totalement différentes. Et on parle sans cesse des fake news, du complotisme, mais je pense qu'il y a ça dans les rapports même d'une famille. Mmh. C'est-à-dire que vous demandez à vos frères et sœurs comment sont vos parents et quelle était leur place dans la famille. Ils vont vous raconter un récit, c'est pas le même que le vôtre. Mmh. Et vous n'êtes pas d'accord sur qui a le plus souffert, vous n'êtes pas d'accord sur qui était le préféré, vous n'êtes pas d'accord. Donc, c'est ça qu'on a envie de faire quand on écrit, c'est sentir la conviction des personnages et en même temps pouvoir les confronter au fait que peut-être ils n'ont pas... C'est la caverne de Platon. Ils n'ont peut-être pas tous les éléments et c'est plus facile à raconter sur des personnages.
Mais ouais, c'est ce que vous faites là et très bien les confronter à d'autres réalités que les leurs. Et oui. C'est ce qui les fait avancer.
Oui, et puis pour moi c'est une belle question parce que c'est aussi que un personnage de toute manière souvent, et je crois que dans la vie on a ça aussi, mais on ne s'en rend pas toujours compte, mais est ému par une obsession. Mmh. Souvent, cette obsession est en lien avec une peur. On fait souvent beaucoup de choses par rapport à des choses qui nous angoissent et qui nous font peur. Et souvent, on finit par provoquer. Enfin, ça nous mène sur des chemins compliqués. On va souvent dans des murs. Et c'est toujours beau de suivre un personnage, cette obsession, et de voir comment il se libère une fois qu'il a pris le mur qu'il doit prendre. Et dans la vie, on est un peu plus perdu. On prend les murs, mais on ne voit pas forcément.
Mmh. Merci, je suis désolée, le temps file, mais vous aurez, vous, la possibilité, auditrice, auditeur, de continuer la discussion avec Baya Kasmi ce soir dès 20h après la projection du film à 18h30 au navire, et puis de discuter, parce que finalement on n'a pas déroulé le fil du scénario, comment on fait, parce que d'ailleurs ce scénario vous l'avez fait pas seul, à trois.
Oui, j'ai eu deux co-scénaristes l'un après l'autre, on n'a jamais travaillé à trois. Mais ils ont tous les deux beaucoup travaillé dessus. Donc Magali Richard Serrano et Olivier Adam.
Et Olivier Adam. Alors, vous en parlerez demain à 11h, c'est ça ? Demain à 11h au navire. Merci beaucoup. On continue. On a une petite pastille puisque, vous savez, ici, il y a la librairie des rencontres avec notamment Julien et toute l'équipe qui vous propose plein de fictions, plein de livres en rapport avec les films qui vous sont proposés pendant toute cette semaine. Donc, on s'écoute une petite pastille. Et on se retrouve pour l'instant lecture, le coup de cœur du libraire. Et le libraire aujourd'hui, oh bah tiens, c'est Julien. Salut Julien.
Bonjour.
Alors avec quoi tu es venu aujourd'hui ?
Eh ben aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Je vais vous parler d'amour parce qu'effectivement, on a Jane Austen a gâché ma vie. On a énormément de films qui traitent de cette thématique.
C'est vrai, Julien ? Tu ne t'en es pas remis ?
Eh ben, je m'en suis pas remis. Et du coup, je me suis dit, alors effectivement, à la librairie des rencontres, vous allez pouvoir découvrir des films, des livres, parce que je confonds toujours livres et films. Mmh. Moi, je suis un peu mal placé à ce niveau-là. Et donc, du coup, vous allez retrouver des livres, en fait, qui parlent de cette thématique-là, de l'amour. Alors, il y en a un certain nombre, Mona Chollet, etc., des gens qui étudient, des philosophes, des anthropologues, etc., qui seront présents.
Des essais. Mais voilà. On a envie de vibrer aussi.
Ben voilà, il y a de la littérature. Alors du coup, effectivement, il y a Jane Austen qui va Orgueil et Préjugé, enfin ce genre-là est présent. Mais moi, j'aurais envie d'aller un peu dans le décalage avec un roman, on va dire, de Sarah Perry qui s'appelle Le Serpent de l'Essex. Alors c'est tout.
Alors de l'Essex, L'apostrophe Essex.
Essex, c'est la région. C'est la région, on va dire, de d'Angleterre où se situe cette histoire. Les portes grincent, ça fait grincer un petit peu. On est au 19e siècle quand même, on n'est pas loin.
Ouais, ça fait toujours de l'effet.
Il y a du bois. Ouais. Et donc du coup, Le Serpent de l'Essex, c'est un livre en fait qui va, on va être dans l'ambiance, on va dire, du 19e siècle et des amours, on va dire, entre guillemets, courtois et très romantiques. Mais avec c'est vrai que toute cette littérature-là est quand même où le rôle de la femme n'est pas très très glorieux non plus, parce que elles subissent beaucoup en fait.
Pas très intéressant, on peut dire.
Voilà. Et donc du coup, là, c'est une jeune femme qui est veuve, et donc du coup, qui a beaucoup plus de liberté, effectivement, et qui à la fois est passionnée par les sciences. Donc du coup, il y a une énigme, il y a une espèce de monstre du Loch Ness qui est présent dans les sexes, et elle va essayer de résoudre cette énigme tout en vivant un amour romantique, mais pas que. Donc c'est très 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 chouette bouquin où à la fois c'est joyeux et on apprend plein de choses sur cette époque là voilà, elle est plutôt darwiniste, hein, vous imaginez bien.
On rappelle le titre, donc Le serpent de l'Essex et l'apostrophe et sexe si vous prenez cette rubrique en cours.
Voilà. Et Sarah Perry. Voilà, à la librairie des rencontres.
À la librairie des rencontres, et qui a été, je vois sur ton petit bouquin, qui a été prix des lecteurs.
Tout à fait, prix des lecteurs. Voilà, c'est quand même un bouquin qui a plus qu'à... En 2019. Pas qu'à moi.
Oui, il y en a d'autres. Rejoignez le club des gens qui ont aimé Le serpent de l'Essex à la librairie des rencontres. Merci Julien.
Merci.
Et rejoignez le club des gens qui ont apprécié le film de Baya Kassmi à découvrir là, tout de suite, maintenant. Préparez-vous, c'est à 18h30 au navire, Mikado. Allez, et Baya, vous
oui,
serez
venez,
là
venez.
Pour répondre à toutes les questions à 20h. Et puis vous serez là aussi demain à 11h, on le rappelle, pour un rendez-vous autour du scénario au cinéma, puisqu'on n'a pas eu trop le temps d'en parler. Merci beaucoup.
Merci, c'était très bien.
Et merci Léna, et puis merci Plex, et merci Sylvain, 17h37. Et oui, vraiment, on ne se refait pas. Vous nous retrouvez demain midi, où il sera question du cinéma de Chantal Akerman. Ciao, à bientôt.